Bon, ben, bon après-midi. Et voilà, on va faire un petit point sur cette anthologie que j'ai eu le plaisir de diriger. En tout cas, c'est marqué sur la couverture. 13 nouvelles, 14 auteurs, puisqu'une nouvelle est écrite par Jean-Claude Duniac et son comparse américain.
Ah, parce qu'en écrire une entière toute seule, je veux dire,
Mike Resnick. Oui, parce qu'il était un peu paresseux à ce moment-là, bien que celui-là certainement exigeait beaucoup de temps et de courriels entre les États-Unis et Toulouse. Et alors, pour cette anthologie, on m'a demandé ça il y a quelques mois déjà, si je voulais diriger une anthologie. Moi, je n'ai jamais fait ça, donc c'était une nouveauté. Je me suis immédiatement tourné vers mon ami de longue date, Jean-Claude Duniac, à qui j'ai dit « Oui, mais ça exige quoi de faire une anthologie ?» Il m'a répondu « Ça n'exige pas trop de temps. Il faut voir si tu as des bons auteurs. Il faut voir comment ça fonctionne, etc. Quel est ton thème ?» Donc, un peu réjoui par ces paroles douces, je me suis lancé. Et avec Stéphanie Nico, la directrice artistique du festival, et Nathalie Weil des éditions Mnemos, on a choisi le thème « Fées et automates ». En fait, ce sont elles qui me l'ont proposé et j'ai accepté immédiatement parce que c'est un thème qui me paraissait être nouveau, dans le sens où les fées viennent d'un univers de rêverie moyenâgeuse et de la fantasy, tandis que les automates viennent plutôt d'un monde quasi-industriel, de la pensée scientifique et donc quasiment de la science-fiction. C'était donc une espèce de face-à-face entre des personnages archétypaux qui venaient de mondes différents et on pouvait imaginer ce que ça pouvait donner en opposition ou en superposition ou en indifférence selon les auteurs qui ont travaillé sur cette anthologie. Alors je ne dis pas que c'est le premier travail qui s'est fait sur les fées et les automates. Je ne suis pas historien de la fantasy ni de la science-fiction, donc sans doute y a-t-il déjà eu des histoires de ce genre. Et ici, ça me permettait aussi, ce thème-là, d'aller un peu aux confins des limites du genre de la fantasy, qui est le point d'appui de ces anthologies annuelles, et d'aller voir au-delà dans les autres genres que sont la science-fiction ou le fantastique, ou même le thriller, quelles étaient les possibilités. Et donc, mélange des genres en partie, nouveautés en partie, et voilà, on est parti. Donc, alors, comment ça se passe pour faire une anthologie? Je vous le raconte parce que comme c'est la première fois, je ne sais pas si vous savez tout ça, mais Mnemos, qui est l'éditeur de cette anthologie, demande à l'anthologiste de retenir quelques auteurs de leur écurie, et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu le choix totalement libre pour tous les autres, les auteurs de l'écurie, c'était 3 ou 4. Sur les 13 autres personnages, ça a été mon choix personnel. Parfois, des choix que j'avais faits n'ont pas pu être concrétisés. Je voulais des Belges, par exemple, parce que je suis belge. Et si Cindy Van Wilder et Benoît Renson ont répondu présent, Stéphane Plateau, qui est en pleine gloire, là, juste derrière, en train de signer, lui n'a pas pu parce qu'il terminait son deuxième tome Shakti, et donc il n'avait pas beaucoup le temps. J'avais demandé aussi à Jean-Philippe Jaworski, qui était dans le même état d'esprit. Et donc, c'est comme ça qu'on crée, en fait, un ensemble d'auteurs qui, pour tous ceux qui sont ici, et pour tous les autres, donc, et pour tous ceux qui ont signé, ont répondu oui, tout de suite, sans atermoiement. Alors, autour de moi, il y a Nabil Ouali, Jean-Claude Duniac, Lionel Davout, Estelle Fay et Charlotte Bousquet. Donc, 5 des participants à cette anthologie. Il y en a 8 qui manquent, 9 si on compte Mike Resnick. Mais voilà, je crois que ça donne une bonne idée de ce qu'est cette anthologie. Et je voulais d'abord savoir auprès de chacun d'entre eux comment est-ce qu'ils ont comment ils ont réagi à ma demande, c'est-à-dire à ce thème fait automate, et qu'est-ce qui les a fait accepter de participer à cette anthologie. Estelle, on commence par toi, puisque tu es la première dans l'anthologie.
Oh. Alors, déjà, de toute manière, c'est des figures et un thème qui sont plein de possibilités. Évidemment, tout de suite, j'ai vu où j'allais pas aller. Et c'est une des choses qui m'ont intéressée. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, je ne vais pas faire de fantasy avec des fées et je ne vais pas faire de steampunk avec des automates. Parce que, alors j'adore la fantasy, j'adore le steampunk, mais là, ça aurait été un peu une sorte de solution de facilité. Et ce qui m'a intéressée, donc, c'est justement le challenge de traiter ce thème sans aller dans la facilité. Ce qui fait qu'après, certaines personnes m'ont vu travailler sur cette nouvelle dans la salle, ils savent que j'étais complètement perdue, complètement paumée, que je me suis pris la tête en me demandant « mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, c'était vers environ vers décembre, je crois, qu'on a vu le sujet. Et courant janvier, je me suis retrouvée donc, dans une ville complètement noyée de brume, complètement enveloppée par cette espèce de grand cocon blanc. Et là, tout à coup, j'ai vu mon histoire qui commençait à naître dans cette brume. Et en plus, à ce moment-là, donc, j'étais chez des amis. Il y en a un qui a mis un vieux standard de rock américain que j'écoutais beaucoup quand moi-même j'étais aux États-Unis. Et il y avait cette brume, il y avait ce vieux standard de rock dans ma tête. Et vraiment, c'est de là que la nouvelle est partie. Et peu à peu, il y a une fée qui a commencé à apparaître dans cette brume. Et la nouvelle, elle s'est vraiment dévidée à partir de là, en fait. À partir de cette fée dans la brume. Et c'est aussi pour ça qu'elle se passe aux États-Unis. C'est à cause de ce standard-là dans mes oreilles. C'est pour ça qu'il y a une partie qui se passe à San Francisco, qui était là où je l'écoutais. Et là, je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai trouvé, quoi. Ça y est, j'ai réussi à tordre le cou à cette difficulté-là. Et voilà, c'était le goût du challenge qui m'a fait accepter.
Et Charlotte ?
Alors, en fait, moi, je sortais à peine, en fait, l'écriture et de la promotion de Jadis, qui est donc le dernier ouroboros de Mnemos, qu'on a écrit à, donc, je dirais, quatre mains et une palette graphique, plume et ce qu'on veut, puisqu'on a été quatre auteurs, un illustrateur à travailler sur le projet. Jadis, la ville infinie, c'est un mélange de renaissance, de steampunk, d'à peu près n'importe quoi. On y trouve aussi bien des complots d'inspiration Médicis que non pas des fées, mais des Sélènes, hein, qui ont un côté très très elfique quand même. Des automates qui sont tout droit sortis presque des romans d'Italo Calvino, que des bougres. Et en fait, c'est un univers dont aucun de nous cinq n'est arrivé à vraiment partir. Et on s'était, je crois, vu même quelques semaines, à peine, peut-être 15 jours avant que Jean-Claude me propose de participer à l'anthologie, en se disant, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça serait bien qu'on fasse des romans dans cet univers, ça serait bien que... Voilà. Et en fait, du coup, le sujet s'inscrivait, Fée Automate s'inscrivait complètement dans l'univers de Jadis, et ça a été pour moi assez évident, assez immédiat, puisque donc Jadis, il y a des Sélènes et des automatons et des possibilités infinies d'écrire des histoires à ce sujet. Ensuite, l'autre raison, je dirais, c'est que l'automate est pour moi un être qui m'interroge énormément, en tout cas en tant que c'est mon côté, ça fait vibrer mon côté philosophe, puisque ça interroge notre rapport à l'autre, au monstre, et aussi finalement à nous-mêmes. Et voilà, donc je crois que c'est pour ça que je me suis même pas vraiment posé de questions plus de 2 minutes. Je crois que je vous ai répondu tout de suite, oui. Hein, ça a été un truc comme ça. Et la nouvelle est du coup venue très très vite aussi.
Nabil, je continue dans l'ordre du sommaire. Nabil, ah oui, il n'y a pas de micro, Nabil.
Il y a plus de micro pour les filles. En
fait. Oui, c'est très bien. Nabil, qu'est-ce qui t'a fait accepter
C'est plutôt à l'envers. Je me suis posé la question. Je me suis demandé est-ce que j'ai des raisons de refuser, en fait. non, sincèrement, quand on m'a proposé... Ouais, voilà. Non, mais j'étais d'abord très honoré, en fait, parce que j'ai vu les noms qu'il y avait, j'ai vu ce genre de choses, et je suis un très jeune auteur. Enfin, c'est ma deuxième année, donc c'était une aventure pour moi qui... Je sais pas, je voyais vraiment pas de raison de refuser. Le thème me plaisait, je veux dire... Tout simplement.
Et Jean-Claude, lui, qui est, j'allais dire, un vieux de la vieille, qui n'a plus besoin de ce genre de sollicitations...
Ben moi, en fait, tu m'as fait un magnifique cadeau, hein, sans le savoir, parce que j'ai reçu ta proposition,
bon, qui, que je trouvais tout à fait... Je te rappelle, on en avait discuté. Oui. On avait plutôt discuté de, avant de c'est quoi effectivement une anthologie, qu'est-ce que ça demande comme travail, qu'est-ce que, quel est le planning à mettre en place, enfin, tous les aspects pratiques que vous ne voyez pas. Mais pour savoir que pour être disponible le 28 mai, il faut que ça soit chez l'imprimeur le temps, ce qui veut dire que le manuscrit doit être fini le temps. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut regarder. Et donc, il me fait cette proposition. Et je vous jure, mais le soir même, lors d'une discussion avec Mike Resnick, here's Mike Resnick, Mike me dit, si on écrivait ensemble. Et je veux dire... Attends. Non, c'est, on va mettre Mike là.
Non,
Ben, oui, mais tu te mets là.
Il y a un trou dans le...
Oh. Hey. Je suis là pour faire le spectacle, mais comment dirais-je? Bon, on va peut-être en prendre une autre, hein, dans la série. Pour l'instant, c'est la chaise qui est cassée. Je vais vous le faire rock'n'roll. Donc Mike Resnick me dit, est-ce que tu veux écrire avec moi? Et là, je veux dire, l'émotion, vous pouvez imaginer. Et du coup, j'ai dit à Mike, parce que sinon j'aurais refusé, je me suis dit non quand même, Mike. Et là, je me suis dit, écoute, ok, on me fait cette proposition-là, qu'est-ce que tu dirais de faire un texte à nous deux sur ce thème-là? Et Mike, qui est un pro, me dit, allez, let's go, on de route encore. Et donc, j'écris à Jean-Claude Antoine, j'ai dit, écoute, on va te le faire, mais pour des raisons que je ne détaillerai pas, qui sont qu'il fallait que mes textes soient traduits en anglais, lus par Mike, qui rebondissait après. On va peut-être te le terminer juste dans les délais. Tu nous fais confiance, mais en échange, je te fais une surprise. Je n'ai rien dit. Et donc, on a écrit le truc. On a discuté du sujet, démarré, j'ai traduit. Il a lu ma traduction. Il m'a renvoyé son texte en anglais que j'ai traduit. Enfin, bon, bref, pour que vous ayez... Alors, il y a une version française et une version anglaise du texte. Et j'ai écrit à Jean-Claude Antoine. J'ai dit, j'ai une petite surprise pour toi. En fait, on est deux, Mike Resnick et moi. Il m'a dit, oh, ça ne me dérange pas.
Ça, ce n'est pas vrai du tout.
C'est pas vrai du tout. Et puis, en fait, il m'a répondu, mais en fait, ton texte ne va pas du tout. Il y a une énorme catastrophe parce que tu parles que d'automates, il n'y a pas assez de faits. Et alors, il avait raison en plus. Et donc, je me suis gratté la tête et j'ai rajouté un gros paragraphe pour rajouter des faits dans cette histoire qui n'avait rien à y foutre. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bon, on a quand même été professionnel, on arrête. Et il a décidé d'accepter.
Voilà.
Oh, all right. Jean-Claude and I have been friends for close to 20 years. I've always admired his writing, and in fact, I am currently editing a magazine that buys his writing. So it occurred to me one day that we ought to collaborate on a story, and he mentioned that there was an anthology coming out for Epinal, and that would be the perfect spot. So I suggested three or four ideas to him. He chose the one he liked. He wrote the first half. I fixed everything that was wrong and wrote the second half. And then we turned it in. And it was an enjoyable experience. We've already agreed to do it again.
Donc ça fait une vingtaine d'années que je connais Jean-Claude et que j'admire son travail. Et je dois dire que je publie aussi un magazine qui achète des nouvelles à Jean-Claude. Et puis comme j'ai été invitée à venir à Épinal, et ben on s'est dit que ce serait une bonne idée de collaborer à un projet, travailler ensemble sur une nouvelle. Et puis il y a l'idée de l'anthologie qui a été émise. Et donc je lui ai soumis deux, trois idées de texte, de travail que l'on pourrait faire de point de départ. Et on a dit d'accord. Alors Jean-Claude a fait la première moitié de la nouvelle. Il me l'a envoyé. J'ai corrigé ses erreurs. J'ai fait la deuxième moitié.
What should I say now? Nothing, just that it was a very enjoyable experience.
Eh ben, je n'ai rien à ajouter, d'autre que c'était une expérience vraiment très, très agréable.
Et pour moi, un cadeau très, très agréable aussi. Merci, Mike. Lionel, alors, ce thème, ça t'a botté directement aussi?
Tout à fait, pour deux raisons. Bah, d'une part, parce que Les Imaginales est un festival auquel je suis très attaché, auquel j'ai le plaisir de venir depuis le tout début. Donc, recevoir l'invitation à participer, c'est à chaque fois comme un peu revenir en famille. Donc, c'est un grand plaisir. Et puis, en plus... pour moi aussi, tu m'as fait un grand cadeau. Pour moi, le terme était vraiment quelque part servi sur un plateau, puisque j'ai donc l'univers des Vanégyres que je développe dans trois livres, qui sont à chaque fois des récits totalement indépendants les uns des autres. Mais il y a des soldats impériaux en exosquelette, ça pouvait faire de bons automates, et ça fait très longtemps que je sais qu'il y a des faits, mais que j'ai pas eu le temps de les mettre en scène. Donc c'était vraiment l'occasion parfaite de faire cette rencontre que j'avais encore, d'introduire cette figure-là de ce monde-là que j'avais jamais eu encore l'occasion de montrer.
Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ça doit être la majorité des gens qui sont présents ici, vous verrez que c'est une anthologie et c'est pas dû à moi, qui est, je trouve, de très grande qualité. Les textes sont vraiment très très bons et ils sont surtout très divers. C'est des mondes très divergents, très diversifiés, et vous avez une surprise quasiment à chaque nouvelle. Il y a des nouvelles qui sont plus dans l'univers fantastique 19e siècle, du genre, enfin, pour Paul Béorn et Benoît Renson, par exemple. Il y a des nouvelles quasiment contemporaines, celles d'Estelle. Il y a des nouvelles dans des terres très lointaines, celles de Lionel. Il y a des nouvelles aussi aux confins des étoiles, celles de Jean-Claude et Mike. Et chaque fois, on est surpris par cela, tandis que chez Charlotte, c'est plutôt un univers de fantasy habituel, mais encore mené par des tarots, mené par des femmes qui tissent les destinées des gens, les tisseuses. Et,
Dame Fortune, effectivement. Oui, oui.
Dame Fortune, ah, oui. Et vous verrez, il y a même, c'est Gabriel Katz, il y a même...
Bah oui, mais bon, enfin non, j'avais complètement zappé qu'effectivement la Dame Fortune, qui est quand même la clé de jadis, effectivement tisse le destin des gens. Oui.
Et chez Gabriel Katz, c'est quasiment un polar avec des automates et des fées, mais c'est quasiment un polar dans les cités industrielles abandonnées d'aujourd'hui. Et donc il y a comme ça une mosaïque de genres assez extraordinaire. Nabil Ouali, lui, a décidé de camper son histoire dans un Orient réaliste, et puis l'histoire débouche sur quelque chose qui ne l'est pas. Alors, tu voulais, Nabil, parler d'aujourd'hui, de l'Irak, de la Syrie, des bombardements. Raconte un peu.
Oui, complètement. En fait, ça m'a pas mal imprégné, de la même manière que pour le tome 1 de La Voix de l'Empereur. Je l'avais écrit une bonne partie pendant les manifestation contre le mariage pour tous, et ça m'avait pas mal marqué et donc influencé. De même, la crise en Syrie, ça m'a pas mal inspiré et donné envie d'écrire sur ce genre de sujet, sur la guerre, sur un sujet qui est assez compliqué à traiter. D'autant plus que c'était ma première nouvelle, c'était du fantastique, donc ça n'avait rien à voir avec de la fantaisie, je ne pouvais pas vraiment me rabattre sur des choses sur lesquelles je travaille depuis quelques années et que je connais bien, et c'était ça m'est tombé dessus, et je me suis dit, je ne vois pas comment faire autre chose que ce sujet-là. Quoi.
Estelle, tu as déjà un peu expliqué tout à l'heure comment tu es arrivée sur cette histoire qui se passe aussi bien dans les années 20 que dans les années 70, pardon, 70, qu'aujourd'hui. Quoi, tu as voulu parler du rêve de chacun et que chacun voulait peut-être essayer par tous les moyens d'arriver à concrétiser ?
Alors, en fait, à la base, j'avais pas une idée préconçue. Mais c'est vrai que donc il y a cette chanson qui résonnait, qui pour moi évoquait des choses très personnelles, qui évoquait vraiment une période de ma vie qui a été super importante et qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses de ce que je voulais faire plus tard. Et notamment que voilà, je voulais passer vraiment à la mise en scène, à la réalisation. Et cette nouvelle, elle parle d'une partie, de l'autre partie de ma vie, en fait, celle où j'écris pas. Et c'est une partie de ma vie qui est très importante, évidemment, pour moi, mais que j'avais jamais abordée encore dans un texte. C'est-à-dire, c'est ma première nouvelle qui parle de cinéma. Et peut-être que, justement, d'avoir cette musique-là en tête, ça m'a poussée, même malgré moi, parce que vraiment, j'avais pas d'idée préconçue quand je suis partie, je savais même pas comment elle allait finir. Ça m'a poussée à aller dans cet univers-là, ça m'a poussée à parler de cinéma. C'est ce que je fais à côté, enfin, ce que j'essaie de faire à côté. Donc, finalement, ça m'a entraîné ce thème beaucoup plus loin que j'aurais cru aller. Merci à ça pour l'anthologiste. Parce que j'ai l'impression que ça faisait des années, en fait, que je tournais autour de ce sujet-là. Ça faisait des années que je tournais autour de, justement, tout ce que le cinéma représente pas juste pour moi, mais tout ce qui représente aussi dans notre monde moderne. Le titre de la nouvelle, donc, c'est Smoke and Mirrors, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être une expression anglo-saxonne pour désigner le cinéma, en disant que c'est vraiment donc, un jeu de miroir, un jeu de fumée, que c'est qu'un jeu d'illusion. Et pourquoi ce jeu d'illusion, il est tellement important dans notre monde aujourd'hui? Qu'est-ce que cette illusion dit de notre monde? Pourquoi on est prêt à sacrifier une partie de nos vies? Pourquoi on est prêt à sacrifier une partie de notre vie privée, de notre, voilà, pourquoi on est prêt à pas dormir, à gagner très peu, donc pour simplement essayer de faire des films alors qu'on n'est même pas sûr d'y arriver? Pourquoi ce rêve de juste des images qui bougent sur un écran, il est si fort pour pas mal de gens aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il peut nous entraîner parfois à certaines extrémités? Et finalement, ma nouvelle, voilà, c'est ça qu'elle questionne, mais ce n'était vraiment pas voulu au départ. C'est quelque chose qui m'a, en quelque sorte, échappé. Et en même temps, je suis super contente que ça m'ait échappé.
Mike, l'intérêt pour les robots, les automates joueurs d'échecs, c'est quelque chose qui vous vient de la lecture d'Edgar Allan Poe ou des automates du 18e?
Non, je n'ai pas eu mon inspiration de Poe. I got it in a negative way from Isaac Asimov. He created the three laws of robotics. I've written about 15 stories about robots, and I have never had a robot that obeyed those laws, which I think are kind of silly.
Non, mon inspiration ne vient pas de Poe, mais plutôt d'Asimov. Et Asimov et les trois lois qui concernent les robots. Je veux dire que moi, j'ai écrit plein de romans de science-fiction avec des robots, et aucun de mes robots n'a jamais appliqué ces lois.
Qui sont quelque part un peu idiotes, il a ajouté.
Ah, the three laws have been accepted by everybody. They're very simple machines. It would seem to me that by the time we actually have a lot of robots in society, they won't be obeying the three laws either. And there's no reason why a robot shouldn't be at least as intelligent as a dog. And a dog has certain wants and needs that are frequently different from other dogs' wants and needs. They don't all obey the same precepts.
Alors ces trois lois sont universellement acceptées, reconnues, et je pense que en fait, quand on aura des vrais robots dans notre société, ces vrais robots ne vont pas non plus obéir à ces lois. Je pense que les machines, ces robots, seront au moins aussi intelligents qu'un chien. Et un chien a des besoins différents des autres chiens. On ne peut pas dire qu'une seule loi pourra s'appliquer à toutes les races de chiens.
Over the years, two of the robot stories I have written have been nominated for Hugos. One was about a robot who was a nursemaid to a little child who died. And he was willing to sell himself into slavery if the inventor could simply find some way to allow him to cry. The name of the story was Robots Don't Cry, and as I say, it was an award nominee. The other one I did was about a robot that was a handyman around a church. And the minister, during the weekdays, would practice his sermons, and the robot would hear them, and eventually wanted to become a Christian. And there were serious complications with that. But these are the kind of robots I'm interested in.
Alors j'ai écrit des nouvelles dont certaines ont été primées sur des robots, dont deux en particulier, une qui a été proposée pour le prix Hugo. Alors c'est l'histoire d'un robot qui est la nanny d'un petit enfant, et ce petit enfant meurt, et le robot nanny est tellement malheureux qu'il serait prêt à se vendre en esclavage simplement pour pouvoir pleurer. Et dans une autre nouvelle, j'ai un robot qui est employé d'une église et qui passe tout son temps à l'intérieur de l'église à écouter le ministre du culte avec qui il s'entraîne avec ses sermons du dimanche. Et lui, en fait, ce robot, il voudrait se convertir au christianisme. Et donc voilà, ce sont les robots qui m'intéressent, moi.
On reviendra encore, à moins que Jean-Claude ait envie d'ajouter.
Juste une remarque, en fait, quand on a fait cette histoire ensemble, Mike et moi, et il faut savoir qu'on se considère, Mike et moi, comme des conteurs. C'est-à-dire qu'on est là pour raconter des histoires. On n'est pas nécessairement là pour faire de la grande philosophie ou même parler de nous. On raconte des histoires. Et le défi qu'on avait dès le début, c'était arriver à résoudre un problème de quadrature du cercle. On avait un robot qui était tellement bon aux échecs, enfin, un automate, qu'il... il pourrait battre n'importe qui. Et le problème, c'est que sa programmation l'empêche justement de battre la personne qui est son ami, la personne humaine, sa propriétaire, son ami. Et donc, il est tout le temps sur des nuls, sur des matchs nuls. Et à un moment donné, il faut arriver à transcender ça. Et je suis vraiment impressionné par la façon dont l'histoire s'est terminée. Ça, c'est Mike. Et Mike, il a pris le truc, il dit, attends, je vais te retourner ça. Et il a réglé le problème.
Oui, on ne vous dira pas la fin, parce qu'il faut la laisser à votre découverte. Lionel, l'empire d'Asretia, je crois, qui est le monde dans lequel tes personnages évoluent, c'est un empire humain, très humain, et très pouvoir, oui.
En gros, c'est un empire qui dure environ un millénaire, et là où, là, donc encore une fois, la nouvelle est parfaitement indépendante du reste. Hein, c'est la seule contrainte, la contrainte absolue que je me donne, c'est que chaque récit doit être totalement indépendant du reste. Donc on peut parfaitement découvrir ce monde avec ce texte-là. Hein. Je fais en sorte que chaque nouvelle puisse être la première qu'on lit. Et donc là, c'est un empire qui existe depuis un certain nombre de siècles à ce moment-là, et qui s'est dit, comme beaucoup d'empires, que c'était eux qui devaient civiliser le monde, et qui en plus se sont trouvés comment apprivoiser les énergies magiques du monde pour en faire des machines. Donc en gros, imaginez l'empire romain qui aurait l'arme atomique, ce qui ne fait pas forcément un mélange très sympathique, qui donc sont partis pour civiliser le monde. Et on découvre donc un soldat qui fuit la bataille parce qu'il n'en peut plus et qui arrive à un endroit dont on dit qu'une fée veille sur les lieux depuis longtemps, sauf que les fées ne sont pas très contentes, et notamment envers l'Empire. C'est que les fées dans ce monde-là, qui est une idée qui vient du folklore, naissent des lieux, en fait, de la conformation des lieux. Donc il y a des fées des sources, des fées des... Là, c'est une fée de roche. Le problème, c'est que, c'est pour regarder la comparaison avec l'arme nucléaire, ce serait un peu comme si c'était une fée d'uranium. Le problème, c'est que si vous êtes motivé pour faire des moteurs nucléaires, etc., bah, peu importe la fée qui va derrière. Et donc, je pense, enfin, une des choses que j'avais envie un peu de traiter dans ce monde-là, c'est qui est un peu en filigrane, même si c'est pas le but, et que ce soit pas démonstratif. C'est, il y a, je pense, il y a l'histoire de l'écriture de ces nouvelles est assez amusante, parce que d'habitude, moi, je structure beaucoup à l'avance. Moi, j'ai reçu l'appel à texte, je savais ce que je voulais faire, mais j'avais pas vraiment d'idée sur la façon dont j'allais le faire, ce qui pour moi est assez inhabituel. En fait, ça s'est beaucoup. L'histoire s'est déroulée beaucoup au fil de l'écriture, jusqu'à la fin qui m'a surpris moi-même. En fait, j'étais pas vraiment parti pour cette fin-là. Et donc, il y a un discours, je pense, qui est écologique derrière, hein, où l'Empire détruit, pille les ressources naturelles pour alimenter sa machine de guerre, sans se préoccuper des éventuelles beautés qui ont pu naître de la nature et qui s'y trouvent. Donc, ce qui explique que cette fée-là, qui est une fée extrêmement puissante, soit pas très, 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 très ravie avec l'Empire, et notamment ce qu'il a fait à ses sœurs et à ses frères.
Vous aurez déjà entendu aussi que, un peu partout, il y a des destins de fées et des destins d'automates très divergents. Charlotte, ton personnage féerique, le Célène, il se fait avoir quand même. Est-ce que les fées peuvent se faire avoir ?
Ben, il est, en fait, c'est vraiment sur le destin. Donc, oui, dans l'univers de jadis, les Célènes ont des dons. Des dons de divination, des dons magiques. Enfin, Frédéric Weil, qui est le créateur de l'univers, nous a quand même laissé carte blanche un peu pour définir ce que c'était. Effectivement, Célène se laisse guider par des rêves et par des jeux de tarot. Donc, j'ai écrit ma nouvelle en partie en m'appuyant sur des tirages de cartes. Comme tout habitant de jadis, finalement, le jouet de la destinée, le jouet de Dame Fortune, et puis d'un personnage qui arrive à échapper plus ou moins à sa destinée en trichant. Donc je dirais que c'est vraiment sur les limites, peut-être les limites de la liberté, et voilà quoi.
Oui, mais... Les automates et les fées sont très divergents, je disais. Chez Nabil, l'automate, l'araignée, on peut dire de quoi il s'agit, est bienveillante. Chez toi, par contre, l'automate, le soldat, il est plutôt l'inverse, il est plutôt malveillant. Alors, pourquoi ces divergences ?
Parce que ça part... Parce que c'est un postulat, on parle de postulat que ces automates-là ont une conscience. S'ils ont une conscience, ils peuvent en faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils peuvent évoluer de la même manière qu'un être humain, etc. En fin de compte, ce qui change entre un automate conscient et un être humain, c'est simplement le fait qu'il y en a un qui fonctionne par des rouages et l'autre par un métabolisme. Donc oui, à partir de là, il n'est pas plus choquant d'avoir un automate gentil, bienveillant, qu'un automate méchant, malveillant, égoïste. À partir du moment où on accepte simplement le postulat, qu'ils ont à peu près le même fonctionnement interne, qu'un être humain, et c'est simplement une question de rouages physiques qui sont complètement différents.
Oui, chez Lionel, la fée, elle est plutôt, elle, bienveillante et un peu trop gentille, tandis que chez Estelle, la fée, elle est plutôt pernicieuse, non?
En fait, elle n'est pas forcément pernicieuse, elle met le héros ou là les héroïnes en face de leurs contradictions. C'est-à-dire que pour cette fée et pour cette nouvelle, je me suis inspirée, mais vraiment très très librement, d'un conte sur lequel je reviens un peu aussi de manière complètement différente dans une de mes autres nouvelles, celle qui a eu le prix Imaginal. C'est l'histoire de la petite sirène. Parce que l'histoire de la petite sirène, c'est finalement sacrifier une part de soi-même pour devenir quelqu'un d'autre et pour atteindre un idéal censément inaccessible, mais dont on ne sait même pas ce que c'est avant d'être entré dedans. Donc voilà, le parallèle avec le cinéma dont je parlais tout à l'heure, je pense que c'est assez évident. Et simplement, il y a quelque chose que je trouve, disons, qu'on dépasse maintenant en fantasy, et c'est tant mieux, c'est un monde de solutions simples, de blanc ou noir. C'est-à-dire, en gros, dans le conte originel, la petite sirène, elle a deux états, sans voix ou sans jambes, pour résumer. Et il y a soit on accepte le pacte de la fée, et dans ce cas-là, on sacrifie une partie de soi, mais on peut atteindre ce qu'on veut en retour, sachant que souvent, les solutions simples, ça ne marche pas, donc évidemment, ça ne marche pas. Soit on refuse le pacte de la fée, mais dans ce cas-là, on reste dans son monde. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? C'est ça aussi la question que je me suis posée. Est-ce qu'on n'a pas une part de liberté ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui est possible? Et pas forcément facile, pas forcément simple, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est possible? Sortir du dualisme, sortir des solutions binaires. Et finalement, voilà, la fée, évidemment, elle peut paraître pernicieuse, mais avant tout, elle a une fonction de test, comme finalement beaucoup d'épreuves, par exemple, que rencontrent les héros dans les cycles de chevalerie. Les monstres sont beaucoup plus là pour tester le héros que vraiment pour leur faire du mal, a priori. Donc là, c'est cette fonction très ancienne, finalement, d'épreuve révélatrice qu'a la fée dans ma nouvelle.
Mike et Jean-Claude, ce que vous vouliez dans cette nouvelle tester, c'était comment un robot peut-il avoir une part d'humanisation, une part d'humain?
Le robot était déjà d'une certaine façon humaine, parce que ce qui m'a intéressé dans ce personnage d'automate, c'est que c'est un automate qui s'est créé lui-même. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire, mais il en est arrivé là où il en était en partant. C'était juste un bras robotique qui récupérait des machins sur un tapis roulant. Et il s'est littéralement fabriqué lui-même. Bon. Et ce qui m'intéressait, c'est de se dire, OK, l'étape d'après, c'est j'acquiers non pas une conscience, parce qu'il en a déjà une, mais j'acquiers une éthique. Et à ce moment-là, je décide que j'ai la possibilité de faire plaisir, et je choisis de le faire. Et puis évidemment, il y a Mike, par-dessus ça, qui, à un moment donné, met les choses en perspective à un niveau pratiquement galactique. Et donc, tout ça, ça s'est mélangé, et puis le résultat, vous l'avez là. Mais en tout cas, travailler avec Mike, c'est avoir la certitude que sa petite histoire va s'étendre vers les étoiles d'une façon phénoménale.
There are a lot of words that sound good when you say them, and then you have to think about them. For example, we think it's evil to kill, don't we? All right, if you have a 13-year-old dog with cancer, is it evil to kill him or let him suffer for another year? Everything is relative, and science fiction, writing about things that aren't quite human, like robots, can take advantage of that, because you're not stuck with only one perception. For example,
Alors il y a des mots comme ça, quand vous y pensez, vous ne vous posez pas trop de questions. Mais alors si on dit c'est pas bien de tuer, je pense que tout le monde est d'accord. Mais si vous avez un chien de 13 ans, un très vieux chien qui est très malade, qui a le cancer, qui lui reste plus trop longtemps à vivre et qui souffre énormément, vous n'hésiterez pas à l'euthanasier. Et donc tout est relatif finalement. Et moi je trouve que quand on parle de robots, qu'on écrit des histoires de robots, eh ben, on peut justement profiter de cela et profiter de ces nouvelles perspectives, ces nouvelles perceptions.
the very first story I did about a robin, it must have been 50 years ago. It was a robot salesperson in a travel agency, and he wasn't selling a lot of tickets. So they programmed him with enthusiasm, and ticket sales got up, they were much higher. But one day he wasn't there, and they hired a detective to find out what had happened to the robot. And the detective found him stuck in the sand at a condemned beach with junk and garbage all around him, looking out at the water. And he thought it was the most beautiful sight he'd ever seen because he'd been programmed to be enthused. He didn't want to go back. And it's a very sad story, because eventually they take him back and erase his enthusiasm and his memory. But these are the kind of problems that, you know, on the surface, you would think, well, sure, I want anybody who's selling things for me to be enthused. But then you have to think about all the consequences.
La première nouvelle que j'ai écrite au sujet de robots, ça doit faire à peu près 50 ans, et c'était un robot qui vendait en fait des voyages dans une agence de voyages. Et puis il vendait pas énormément de voyages, alors ils ont décidé de lui programmer un peu plus d'enthousiasme. Alors ce robot était toujours très très enthousiaste et il vendait plein de voyages et tout allait bien jusqu'au jour où il a disparu. Alors on est parti à la recherche du robot et on l'a retrouvé dans une sorte de terre à vagues au bord de l'eau, donc une plage, mais une plage dépotoire. Il était à moitié enseveli dans le sable et en fait il était très content de son sort, il était vraiment très très heureux parce qu'il avait été programmé pour être enthousiaste. Donc on l'a ramené à son point de départ et on lui a déprogrammé ses souvenirs et tout est reparti. Donc moi c'était ce qui m'intéressait avec les robots, c'est ce qu'on pouvait en faire.
In a typical Asimov robot story and those stories that are derived from Asimov, you have a robot that does something that seems to be breaking the three laws. And it's a puzzle story because the reader and the characters in the story have to figure out how he is not breaking the laws, why he is doing what he's programmed to do and they simply don't understand it. I find that totally uninteresting as a writer. I want to move the reader. I want the reader to care, not to be smart and dope out the puzzle, but to care about the character, whether it's a robot or a human, seems to me the purpose of writing to begin with.
Et ce qu'on trouve dans Asimov et ses nouvelles concernant les robots, ses romans sur les robots, et Asimov et ceux qui l'ont suivi et qui ont parlé de robots, c'est des histoires de robots qui violent une des trois lois des robots, ou qui semble violer justement ces trois lois. Et donc, après, on s'attend à ce que le lecteur essaie de découvrir comment il ne viole pas les trois lois. Et moi, ça ne m'intéresse pas trop de faire ça, en fait. Moi, j'ai envie que le lecteur soit plus pris émotionnellement par ce que j'écris et par les histoires que je raconte. Et donc, je ne vise pas les mêmes vues qu'Asimov et ceux qui l'ont suivi.
If Jean-Claude disagrees, I'll change my mind.
Et si Jean-Claude n'est pas d'accord, eh bien je vais changer d'avis.
No, Mike, I fully agree. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, on n'a pas cherché à avoir un automate intelligent. On a cherché à avoir un automate qui, à un moment donné, a fait preuve de grandeur, de gentillesse. Et le fait qu'il l'ait fait d'une manière peut-être intelligente, j'en sais rien, c'était pas ça qui était important. C'était la manière dont ça s'est passé. Et c'est curieux, c'est que cette histoire n'a pas eu de titre pratiquement jusqu'à la fin, et quand Mike a écrit la fin, le titre était devenu évident.
Et le titre, c'est
en anglais, c'est, je crois, Queen Robot Sacrifice.
En français, c'est plus allusif, c'est son dernier coup d'échec.
Son dernier coup d'échec. Alors, son dernier coup d'échec, c'est une référence aussi à Sherlock Holmes, qui a une nouvelle qui s'appelle Son dernier coup d'archer. Et donc, on a traité là-dessus. Là, voilà. Vous avez une des clés du livre.
Mais il n'y a pas de coke ici. Lionel, vous êtes des raconteurs d'histoires, mais on vient de l'entendre, il n'y a pas que l'histoire qui compte, il y a des sous-textes sur l'écologie, sur le destin, sur la guerre au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, etc. Est-ce que, Lionel, quand tu commences une histoire comme celle que tu as écrite ici, le Plateau des Chimères, est-ce que tu penses à ce sous-texte ou est-ce que ça vient ?
Ça vient et je pense qu'il faut que ça vienne. Parce que c'est Orson Scott Card qui disait il faut toujours éviter de mettre un pamphlet dans la fiction parce que vous finissez avec à la fois un mauvais pamphlet et à la fois la mauvaise fiction. Je pense que ces questions de thème, de fond, etc., c'est des choses qui doivent émerger organiquement du décor, des personnages, de ce qu'ils veulent. Si les personnages sont forts, qu'on les connaît bien, qui forts, non pas au sens où ils soient balèzes et costauds, mais au sens où ils ont une vision du monde que nous, on maîtrise bien, qu'on a bien formé, qu'on a bien appris à faire connaissance avec eux, la situation dans laquelle on va les mettre, j'ai invoqué Card, maintenant je crains plus rien, je vais invoquer Aristote, qui disait une histoire, c'est avant tout une situation qui est riche de potentialités. Et l'histoire, c'est le déroulement de ces potentialités-là. Et la démonstration, enfin, la mise en scène, la dramatisation de ces potentialités. Et je pense qu'une histoire, c'est exactement ça. Si les personnages, on les connaît bien, qu'on déconnaît bien le décor, qu'ils ont chacun des visions du monde qui sont bien campées, qu'on a appris à maîtriser, le thème, ça va émerger organiquement de leur rencontre, de leur dialogue, etc. Non pas à travers quelque chose qui, pour moi, est profondément barbant, c'est-à-dire la démonstration. On est effectivement, comme tu dis, des raconteurs d'histoire. On est là pour que le lecteur passe un bon moment, qu'il y ait une histoire qui l'émeuve, peut-être le fasse réfléchir, mais en tout cas, l'entraîne et l'embarque. Ces choses-là doivent justement... ces choses-là doivent émerger de la situation des personnages et de leur parcours.
Charlotte, dans le monde que tu inventes, l'écriture a beaucoup d'importance. Il n'y a pas seulement du décor, une action, il y a une façon d'écrire. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça te vient naturellement? Est-ce que tu dois t'attacher, recommencer, retravailler ton texte?
Je dirais que... dans l'écriture, je considère que l'écriture est au service des univers que j'écris. Et au service des histoires. Effectivement, certaines histoires vont s'écrire plus facilement que d'autres. Il se trouve que dans l'univers de Jadis, mais alors je vraiment précise qu'il n'est pas de moi, qui est vraiment une création de Frédéric Weil, on va dire que la plume du XVIIe siècle me vient assez facilement. Toute la difficulté, c'est vraiment au début du récit, ça va être de trouver le ton juste. C'est un petit peu comme une partition ou comme un musicien qui accorde les cordes de son archet. C'est vraiment trouver le ton juste qui va correspondre au récit, au personnage. Donc effectivement, est-ce que je vais écrire à la première personne, est-ce que je vais écrire à la troisième personne, dans quel genre, dans quel style, presque j'ai envie de dire dans quel ordre. Est-ce que je vais pouvoir me permettre d'écrire un quelques alexandrins, parce que j'aime bien aussi, ou est-ce que ça va être plutôt slam? Donc évidemment, dans l'univers de Jadis, c'est bien sûr des alexandrins. C'est assez naturel et assez essentiel à l'écriture, au déroulement du récit, c'est vraiment trouver le ton juste. Et ça m'est arrivé, deux fois, de reprendre un texte entièrement, parce qu'il sonnait faux. Ça m'est arrivé pour le troisième tome du cycle de La peau des rêves qui était écrit, je ne sais plus ce qui n'allait pas, mais en tout cas, c'était au passé, ça aurait dû être au présent ou vice-versa, et du coup, j'ai vraiment complètement changé. Et ça m'est arrivé aussi pour Là où tombent les anges, où je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et c'est mon éditrice qui m'avait suggéré d'écrire plutôt au présent. Donc j'ai commencé par râler, j'ai écrit un prologue au présent, et je me suis dit, ok, maintenant tu as 500 000 signes à réécrire au présent. Voilà, mais du coup, effectivement, c'était le ton juste. Et pour moi, c'est vraiment très très important, parce que c'est inhérent à l'histoire qu'on raconte.
Nabil, ta nouvelle s'appelle Al-Ankabut, je ne sais pas si je prononce bien, tu ne l'expliques pas dans la nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça s'explique si on va sur Google. Al-Ankabut, c'est le nom d'une sourate du Coran qui s'appelle la sourate de l'araignée. Et donc, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure avec un énorme spoiler, l'automate est une araignée dans cette nouvelle. C'est une araignée musicale, en fait. C'est une araignée harpe. Voilà,
c'est tout.
Et c'est tout. Non, ça, et ça m'intéressait parce qu'évidemment.
Il s'explique jamais longuement. Hein,
j'aime pas expliquer. Non, c'est quand on explique, on démystifie un peu et c'est dommage. Mais non, concrètement, l'islam a une place quand même dans cette nouvelle, dans la mesure où c'est une nouvelle qui se passe au Moyen-Orient, dans une ville plus ou moins imaginaire, inspirée d'une ville de la côte de la Syrie, qui est attaquée par des djihadistes. Voilà.
Oui, bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir choisi une araignée automate, c'est un lien avec le fait que le prophète ait été sauvé par une araignée ?
Alors oui, complètement. Oui, complètement. Il y a deux raisons en fait au choix de l'araignée. C'est qu'effectivement, donc dans la mythologie islamique, le prophète a été sauvé par une araignée des oiseaux lorsqu'il essayait de fuir la Mecque et que donc des gens de la Mecque essayaient de l'attraper pour l'exécuter. Et la deuxième raison, c'est que j'étais avec des amis, des gens que j'aime, chez Sarah Doc, donc que certains connaissent sans doute, qui a une passion quasi morbide pour les araignées, et que quelqu'un, un ami à elle, qui s'appelle Stéphane, un grand barde, s'est mis à jouer de la harpe, et c'est tout, ça m'a charmé, et ça m'est resté.
Voilà, comment les nouvelles naissent et les univers naissent. Jean-Claude et Mike, ce qui est aussi une qualité... Une caractéristique de votre nouvelle, c'est l'humour. Il y a beaucoup d'ironie dans votre nouvelle.
Il y a de l'ironie parce que c'est un genre, je crois, qu'on explore quand on a notre âge, parce qu'on est capable de faire un petit peu de recul par rapport aux choses. Et puis aussi parce que nous ne sommes pas là pour parler de choses lourdes, pesantes ou terrifiantes. Etc. Nous sommes là pour, je sais pas, faire naître un sourire comme un nuage qui passe et qui tu sais, il y a un IQ zen qui est magnifique, qui disent « Les nuages, parfois, viennent nous reposer de regarder la lune. » Et écrire, pour moi, c'est aussi ça. C'est créer le nuage qui, pendant quelques instants, va te reposer de regarder la lune. Tu vois, c'est de l'ironie. Maintenant, démerde-toi avec ça.
Est-ce que Mike a quelque chose à dire là-dessus ? Do you want to answer, Mike, about the humor in your short story ?
I have written... Over 130 humorous stories. Science fiction is probably the only field that would let me do that, so I'm very pleased with it.
J'ai écrit plus de 130 nouvelles comiques, et c'est vraiment grâce à la science-fiction, c'est ce qui me permet d'écrire des nouvelles comiques.
I wanted to get back to the subject we were talking about before. When I got into the field, which was about half a century ago, there was a huge battle being waged among the writers and editors. About half of them thought science fiction should be a literature of ideas, and the other half thought, no, the characters were much more important. I am glad to say that the half that believed in the characters seemed to have won the battle.
Il y a 50 ans, quand j'ai commencé à écrire de la science-fiction, il y avait une controverse énorme à savoir qu'est-ce qui était le plus important en science-fiction, c'était les idées ou c'était les personnages. Et je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, on a la preuve que ce sont les personnages qui ont gagné.
I think, for example, that a couple of hundred years from now, people will still be reading Ray Bradbury because he writes about the human heart. Whereas a couple of hundred years from now, I do not think Asimov, Heinlein or Arthur Clarke will still be in print.
Je pense que d'ici deux siècles, on va encore lire Ray Bradbury, parce que Ray Bradbury parle du cœur humain dans ses nouvelles. Mais je doute qu'on lise encore Asimov, Heinlein ou Arthur C. Clarke, parce que c'est une littérature d'idées.
You're allowed to disagree, but you're wrong.
Vous avez le droit de contester, mais vous avez tort.
Cela dit, ne pas oublier non plus qu'arriver à mettre des personnages inoubliables dans un cadre d'une bonne idée, ça, c'est un petit peu rassembler le meilleur des deux mondes. Et quelquefois, on a de magnifiques idées, de magnifiques mécanismes, et les nouvelles de science-fiction sont formidables pour ça, parce que ce sont des pierres précieuses. Mais pour arriver à ce qu'elle brille vraiment, il faut mettre du feu à l'intérieur. Et la seule façon d'y arriver, c'est de mettre du cœur, de mettre de vrais gens dedans. Et c'est ça qui fait que la nouvelle, d'une certaine façon, devient magique et devient brillante. Et je crois que dans cette anthologie, il y en a quelques-unes qui sont vraiment amenées à briller.
Yeah, I didn't want to imply that you shouldn't have ideas. If you make the reader think, so much the better. But the first thing you have to do is make him feel, to react.
Si je, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre d'idées dans une nouvelle de science-fiction, mais bon, c'est très bien hein, de faire réfléchir le lecteur, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de mettre de l'émotion.
Si je peux juste me permettre de réagir, alors en tant que tout petit auteur hein, par rapport aux grandes sommités qu'on a là, avec un tout petit peu plus de parcours que Nabil, mais à peine, on se rejoint là-dessus. Quand j'ai commencé vraiment à écrire, et même avant, quand j'étais avant tout lectrice, ou quand j'ai fait mes premiers mémoires sur la fantaisie en fac, c'était suite à un pari perdu, c'était pas volontaire, je pensais vraiment qu'en effet, c'était, voilà, il y avait une histoire, il y avait des personnages, et qu'il fallait pas essayer de mettre des idées, qu'il fallait pas essayer de mettre quelque chose là-dedans. Et c'est avec ça aussi que j'ai commencé, quand j'ai commencé en tant qu'auteur, je me disais que si l'histoire est assez bonne, si les persos sont là, qu'ils existent, qu'il y a de l'émotion, ce qui est quand même toujours primordial pour moi. Mais que s'il y a tout ça, de toute manière, il y aura des questions, il y aura du sens qui viendra de lui-même. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retournée sur mon minuscule début de parcours et je me suis aperçue qu'il y avait des endroits où je n'étais pas allée, qu'il y avait des choses qui se passaient aussi bien dans le cœur humain que dans notre monde, auxquelles on peut avoir en effet des réactions épidermiques en tant qu'auteur. Là-dessus, je te rejoins complètement. Et que simplement, ces réactions-là, quelque part, je me les interdisais dans mes histoires. Ou plutôt, je n'allais pas les voir parce que je me contentais des histoires et des personnages qui venaient un peu naturellement. Et c'est là que je me suis dit, alors je vais perdre toute ma classe et mon glamour en tant qu'auteur, que par moment, il fallait peut-être un peu se botter le cul. Et que par moment, fallait prendre à bras-le-corps aussi les choses dont on avait envie de parler. Non pas pour donner des leçons. Non pas pour dire c'est ceci ou c'est cela, parce que justement, je ne suis pas du tout philosophe, je ne suis pas du tout sociologue. Je pense qu'une bonne histoire doit poser des questions et pas apporter des réponses. Mais par contre, ces questions-là et ces questions du monde contemporain, ces questions des choses qui nous font réagir aujourd'hui, maintenant, j'essaye de les poser. Et oui, j'essaye de les poser. Ça fait partie aussi maintenant de mon, comment dire, pour mettre des hyper grands mots, processus conscient de création. Et dans les histoires qui sont restées au fil du temps, mine de rien, il y a des romans qui, justement, ont pris à bras-le-corps des sujets de leur monde contemporain et qui, grâce à ça, sont devenus universels. Alors, ce n'est pas du tout pour me comparer à eux, parce que c'est des monstruosités, quoi. Mais je veux dire, Les Misérables de Victor Hugo, c'était une réaction vraiment hyper violente à ce qui se passait à son époque. Le personnage de Jean Valjean, c'est une réaction hyper violente au bagne, à un système judiciaire, à des inégalités de son époque, et c'est un personnage qui traversera les siècles, justement parce qu'aussi il est porteur d'une idée forte, et ça j'y crois maintenant. Alors que très franchement, vous m'auriez posé la question il y a quelques années, j'aurais pas eu cet avis-là. Merci.
Alors, je voudrais continuer la... juste à...
En tout cas, les 14 auteurs de cette anthologie montrent à satiété que la science-fiction et la fantasy ne sont pas des mondes à part et qu'il peut y avoir convergence. Lionel, tu peux conclure à ce sujet. Comme il conclut le recueil de nouvelles, comme il conclut cette anthologie, il va conclure ce débat.
Non, mais quelque chose que je trouve d'extrêmement réjouissant, et je pense qu'on peut remercier Jean-Claude Ventroyenne pour ça, dans la direction de cette anthologie, c'est que dans les années 70-80, il y avait peut-être, on n'appelait pas vraiment la fantasy encore sous ce nom-là, théorique fantasy ou ce genre de choses. C'est pas vraiment très identifié comme ça l'est maintenant. Et puis il y avait un peu un côté, ouais, bon, la fantasy, c'est des histoires de quêtes un peu héroïques, tout ça, sans tellement de fond. La science-fiction, c'est la littérature qui a du fond. Et puis, voilà, alors après, les courants montent, descendent, etc. Et moi, il y a un truc que je trouve, auquel j'ai toujours cru et que je trouve extrêmement réjouissant de voir, c'est que finalement, je crois que c'est la 8e édition de cette anthologie, il me semble, de The Imaginal, année après année, 8e, et que finalement, on arrive quand même à, je pense, une sorte de forme de convergence où finalement, que ce soit fantasy ou science-fiction, on dit tous la même chose, on interroge tous l'humain à travers les mécanismes que sont l'imaginaire, que ce soit la technologie, la magie, etc. On essaie tous, je pense, d'avoir de bonnes idées et d'essayer de les porter d'une manière qui puisse émouvoir le plus possible le lecteur, c'est-à-dire avec de bons personnages et de bonnes histoires. Et moi, je trouve ça très réjouissant de voir quelque chose, de voir ça depuis en plus 15 ans que les Imaginales existent, que finalement, la fantasy et la science-fiction fait le même travail qui est de rêver le lecteur en essayant, si possible, de lui donner une idée qui l'intéresse. Donc, merci Jean-Claude.
En tout cas, moi, je tiens à remercier les auteurs qui ont participé à cette anthologie, Paul Bayorn, Pierre Bordage, Fabien Cerruti, Pierre Gollon, Gabriel Katz, Benoît Renson, Adrien Thomas, Sidi Van Wilder et ceux qui sont ici présents, évidemment, Jean-Claude Duniac, Mike Resnick et merci à sa traductrice Jocelyne Buissonnière, Lionel Davou, Estelle Fay, Charlotte Bousquet et Nabil Ouali. Merci pour votre attention et bonne fin d'après-midi.